14h02, bienvenue chez vous à Boulevard 102.1. Bienvenue chez nous dans le retour. Le vent nous gâche un peu, pas mal, des journées qui pourraient ressembler au printemps. On a moins 4 degrés présentement à Québec, essentiellement avec du soleil. Les vents qui sont pas tant féroces, jusqu'à 15 km/h, mais on les sent bien, très très bien. Ciel dégagé ce soir et cette nuit, minimum, minimum moins 15 degrés. Demain, mercredi, du soleil, maximum de 3 degrés. Mais attention, encore une fois, des vents en rafale jusqu'à 40 km/h qui font en sorte que le refroidissement éolien va filer moins 20 degrés en matinée demain. Du soleil jeudi, on parle maintenant d'un maximum de 13 degrés avec du soleil. Vendredi, oui. Vendredi, le 10 avril, on prévoit de la pluie, un maximum de 7 degrés. Samedi, du soleil, max de 7. Et dimanche, variable, pas de précipitation et un maximum de 10 degrés. On va se rendre. On va finir par se rendre. Pour nous rejoindre par texto directement en studio, c'est le 418-971-1021. Par téléphone, c'est le 418-780-1021. Vous pouvez également nous écrire directement sur le Messenger de Boulevard 102.1. Vous voulez parler à notre journaliste Mathias, l'amener proche de chez vous. Il y a de quoi qui ne marche pas. Il y a une situation à dénoncer. Citoyen à blvd.fm. Et si jamais vous avez besoin de nous autres à l'extérieur de votre véhicule ou ça commence juste à gricher un peu sur la route, ben let's go! C'est l'application Boulevard qui est gratuite. À deux clics de nous suivre en direct ou en différé pour faire du rattrapage. J'ai croisé Bernard Drainville qui était là ce midi. Vous l'avez manqué, vous voulez l'entendre. blvd.fm, ça marche aussi. On met beaucoup d'entrevues également sur la chaîne YouTube de Boulevard 102.1. Gravel dans le retour s'installe pour une semaine de 4 jours. On est là jusqu'à 18h. Beaucoup de choses à jaser ensemble. Beaucoup de sport, beaucoup d'actualités. Beaucoup d'inquiétudes internationales même. Hmm. Ça tombe bien. On va parler avec notre expert cet après-midi. Mon nom est Denis Gravel. Audrey, bonjour.
Salut, Dan.
Ça va bien?
Ça va, oui, toi?
Oui. Véro, bon... Non! Non! C'est encore Gab Marino.
Salut, la gang!
Comment ça va?
Ça va bien, ça va bien.
Quand on t'a dit merci pour ton remplacement jeudi avant de partir en fin de semaine de Pâques, mon Snoro, tu nous l'as pas dit que tu revenais cette semaine.
Ben, je savais pas que vous le saviez pas.
On le savait pas.
Ben, ouais, mais c'est pas mon problème. Sinon,
on t'aurait remercié aujourd'hui et pas jeudi.
Bon, OK. Pas comme vous m'avez dit, passez une belle fin de semaine parce que vous pensiez pas me revoir.
Non,
sinon,
c'est ça.
Va chez Lior.
Exact.
Mais plus sérieusement, Véro est dans la au moment où on se parle, puis c'est demain qu'on va retrouver Véronica, hein, ce qui veut dire Véronique en italien. Tout le monde sait ça, évidemment. Mais non, ça fait bien que tu sois là aujourd'hui, parce qu'il y a énormément de sport, entre autres choses. Ouais. Match numéro 7 des Remparts ce soir, la course dans l'Est qui est en train de changer bout pour bout. Est-ce qu'on aura notre série Canadien Bronze en première ronde? Il y a de plus en plus de possibilités.
Je lisais en fin de semaine que, évidemment, les trois équipes qui ont le plus de chances d'affronter le Canadien, c'est le Lightning, les Sabres et les Bruins.
Yeah!
Mais c'est-tu comme Lightning à 75%, Sabres à 18% puis Bruins à 5%?
Mais le Lightning perd ce soir, mettons, contre les Sénateurs, puis le Lightning perd contre le Canadien jeudi, puis tout est fucked up. Là.
C'est ça, exact. Non, ça... Il y a tellement de games qui ont des implications pour toutes.
Ah, c'est le fun.
On le saura pas tant qu'on sera pas rendu. Là.
C'est le fun.
Au moins, ils ont leur X à côté de leur nom. Là.
Oui, ils vont en série, ça c'est sûr et certain. Puis là, ce qui reste à savoir, c'est la question que tout le monde se pose. Là. Le 50e de Caulfield, c'est-tu TVA ou RDS qui va l'avoir?
Ah, ben là!
La question dont tout le monde parle.
Ça, ça devrait être RDS, là, à un moment donné.
Oui, je pense que...
comme au moins des games cette semaine.
Quelle élégance, hein, de Cole Caulfield d'avoir attendu que ce soit Pierre Houde qui colle la shot, donc on verra ce soir ou jeudi.
Hein?
Oui,
puis c'était drôle, parce que c'était... En fait, c'était malaisant samedi. Puis je sais pas si tu as vu passer l'histoire comme quoi, ben les critiques finalement à l'endroit de TVA Sport, parce qu'à chaque fois qu'il était sur la glace, plus c'était à l'extérieur, fait que c'était pas à domicile, c'était à New Jersey, mais Caulfield est sur la glace, les gens étaient comme, OK, là, Félix, ça va être beau.
C'est
là.
Beau, là. On l'a vu. On sait c'est qui le premier trio, Félix, puis on le sait qu'il y a des chances qu'il score son 50e aussi.
Puis le lendemain, Pierrot, de faire aucune allusion à ça à peu près, j'ai trouvé ça brillant.
Oui, oui, oui. Puis ça fit avec Pierrot. Oui. Tu sais, lui va marquer le moment. Quand le moment va arriver, si le moment va arriver. Mais je pense que les critiques étaient pas mal unanimes samedi que TVA beurrait vraiment trop épais. Puis un moment donné, ça devenait même dérangeant pour le spectateur.
Je suis sûr que TVA avait préparé une espèce d'infographie avec l'intelligence artificielle puis un mini-vidéo de 3 minutes qu'ils n'ont jamais fait jouer parce qu'il n'a pas scoré son but.
Oui, oui, oui. Ou ce que Stéphane Richer virtuel fait un high-five à un Caulfield virtuel. Quelque chose de très laid. Là.
Oui.
Audrey, parlant de lait, il y a déjà des problèmes de circulation.
Oui, bien, c'est pas grand-chose, mais peut-être juste vous informer que la fin de l'accès du boulevard Perle-Lièvre vers Robert Bourassa Sud, c'est partiellement travaillé. Il y a un véhicule lourd en panne. Normalement, c'est pas là juste pour 15 minutes, mais c'est quand même beau sur le réseau routier.
Avez-vous passé une belle fin de semaine?
Hey, une longue fin de semaine. J'ai fait l'exercice hier soir au souper avec les enfants. On a, c'est ma blonde qui a amorcé ça, puis j'étais bien d'accord, là, mais c'est tout le temps blonde qui amorce des idées intelligentes. mais c'était à demander à ma fille, qui est rendue à 4 ans et demi, pareil, « Hey, on fait le résumé de la fin de semaine, tout ce qu'on a fait. » Fait qu'on a commencé par jeudi soir, puis c'est là que j'ai réalisé que ça fait une éternité jeudi soir. Là. Ça fait tellement longtemps.
Ben oui!
Dépendamment de la fin de semaine que tu as eue, mais il se passe beaucoup de choses, tu sais, surtout avec des enfants, puis tu sais, on a beaucoup d'aventures, on s'en va à telle place, puis chaque jour, il y a de quoi de prévu. Mais ça, j'ai capoté à voir à quel point... Hey, vendredi soir, c'était la game des Remparts à domicile. Mais dans ma tête, ça fait 2 semaines tellement qu'il s'est passé de choses depuis vendredi.
Ça n'a pas arrêté.
Non, c'est ça.
Audrey?
Ben moi, tu vois, j'ai le feeling inverse. Je trouve que ça passait excessivement vite. Puis c'est un week-end où je m'étais dit que je voulais essayer de ralentir.
Bon.
Puis de flotter sur un certain nuage le plus longtemps possible. Fait que ça a été une belle fin de semaine, mais une fin de semaine où j'ai pas fait grand-chose à part vendredi soir.
Parlons-en! Vendredi soir, j'ai passé une très belle soirée vendredi soir. On était à la même place, sauf que moi, j'étais assis dans les estrades et Audrey était sur scène.
Ouais.
Parce que vendredi soir, dans la petite salle du Grand Théâtre, il y avait nos amis de Big Muff et invités spéciaux qui rendaient hommage, écoute, au rock dans lequel on a grandi, ma génération, le rock des années 90, début 2000. Puis il y avait énormément d'invités spéciaux, puis j'avais pas dit à Audrey que j'y allais.
Non, puis c'est vraiment drôle parce que pour la petite histoire, Denis a vu des moments où j'ai pris le micro, puis à mon sens, à moi, ça a été des flops pour mes exigences personnelles. Puis c'était comme important, on dirait, pour moi. C'est bizarre ce que je vais dire, Gab, là. Mais c'est comme s'il y a une personne que j'avais... Tu m'aurais dit, t'as un billet puis t'as envie qu'une personne vienne précisément. Pour vrai, c'était done.
Pourtant, s'il y en a un qui a jamais mis en doute ton talent et ta voix, c'est moi.
Mais c'est même pas pour ces raisons-là. Je pense que c'est pour l'évolution des 5 dernières années. tu sais... Mon chum, mes parents, ma famille, mon monde, le monde me connaisse, puis je regarde donne dans les yeux 4 heures par jour, mais je veux dire, s'il y en a un qui, pour moi, a vu une évolution à beaucoup de niveaux, je vais dire, dans les dernières années, plus que bien des gens dans mon entourage.
Cette jeune femme est devenue une femme, Gab.
Puis on partage cette passion-là de la musique, du chant. Puis je sais pas, c'était important pour moi que Dunn soit là, puis j'y avais dit. Mais il ne m'avait jamais répondu sur le fait qu'elle allait être là ou pas.
Puis elle me connaît, je ne sors plus beaucoup.
Mais non. Il était fait à l'idée qu'il ne serait juste pas là.
Fait que j'avais demandé au chum brun de ne pas te le dire puis de garder le secret. J'étais supposé venir avec un de mes kids, mais finalement, je me suis trompé de fin de semaine. Je suis sorti avec ma blonde. On est allé sur Grande Allée un petit peu avant, puis après ça, on s'est pointé. Puis la première personne qu'on a vue en rentrant au Grand Théâtre, c'est Audrey avec toute sa famille. Fait que le punch s'est brûlé là. Est-ce que je t'ai dérangé dans ta concentration quand j'ai crié des niaiseries avant ta performance?
Au contraire! Puis ça, j'arrête pas de
dis-le
me
dis-le à ton père.
Non, le pire, c'est que c'est drôle parce que j'en ai reparlé avec lui.
Il était assis 2 bancs à côté de moi, puis j'ai dit, hey, il va m'arracher la tête.
Non, c'est quoi le pire? Quand on en a parlé, parlé, mon père m'a dit, j'ai eu une fenêtre de 3 secondes, puis j'ai failli embarquer, puis dit là, la gêne m'a pogné, puis j'ai reculé. Okay. Fait qu'il avait l'intention de te suivre.
Ben, j'ai crié, on t'aime, Audrey! Puis là, elle a dit, ah, merci Denis Gravel, je te reconnais, puis tout ça. Puis là, j'ai écrit, respire, ça va bien aller!
mais écoute, ça, le pire, c'est que ça a calmé intérieurement. Puis ça a tellement été une belle soirée avec une foule fun. Tu sais, près de 500 personnes qui avaient le goût de participer à ce trip-là, à ce show-là.
Je m'attendais pas à passer une aussi belle soirée.
Ah, oh, c'est hot.
Puis je veux pas que les gars le prennent mal. Je veux dire, c'est des gars que j'adore. La gang de Big Muff, Brun, Fred, Tommy,
Pat, Hubert,
puis les deux autres là, qui se rajoutent, parce que là, c'est des versions unplugged. Fait que t'as quelqu'un qui fait du banjo, qui fait du clavier un peu, je pense.
Puis t'as le pain chaud qui fait du violon.
T'as un joueur de violon extraordinaire. Puis parce que c'est vraiment weird. Je suis un gars des années 90 et ma prétention qui était fausse, c'est-à-dire, moi, j'ai pas de nostalgie des années 90. Puis j'expliquais ça à ma blonde avant qu'on aille au show, parce qu'on parlait de la nostalgie, puis à quel point c'est un facteur de vente, puis à quel point ça nourrissait, tu sais, beaucoup de séries, beaucoup de films, des stations de radio, puis ainsi de suite. Et veux pas, Big Muff, c'est ça qu'il propose. Oui. C'est un tour de nostalgie. Puis moi, dans les années 90, ben j'étais un adolescent qui écoutait de la musique de vieux bonhomme. Tu sais, j'écoutais Pink Floyd, j'écoutais Genesis, j'écoutais Gentle Giant, j'écoutais King Crimson.
Tu sentais pas attaché à ton époque?
Vraiment pas. Mais à partir du moment où les lumières se sont éteintes au Grand Théâtre puis que j'ai entendu les premiers accords de piano de l'album double des Smashing Pumpkins puis que le cœur m'a comme serré un peu, je me suis rendu compte que c'était de la grosse marde puis que je me faisais des accroires parce que j'ai été très nostalgique pendant cette soirée-là à réentendre des tunes que ça faisait des années que j'avais pas entendues avec des arrangements qui étaient tellement beaux, tellement bien faits, plein d'invités spéciaux. Parce qu'il y avait plein d'invités spéciaux, même des gens surprenants. Je pense à la chanteuse, là.
Mélissa Bédard,
qui est arrivée pour chanter J'accroche mes patins de Bob Bissonnette.
Oh ouais. Anti-casting bien raide.
Oui, puis très bien réussi d'ailleurs. Pépé et sa guitare, qui s'est fait plaisir, puis qui a joué des vieux classiques que j'avais jamais entendus en version unplugged. Et un des invités surprise, ben, c'était le chanteur de Vilain Pingouin, Rudy Kaya.
Ouais.
Rudy Kaya, qui a eu 4 ACV dans les dernières années, qui avait pris sa retraite de la scène avec Vilain Pingouin quelques années auparavant. Puis, mon Dieu, ça m'a pogné, ça m'a touché. Puis, je me suis rappelé qu'avant mes grands trips de musique de prétentieux, le premier nom que j'ai écrit sur mon premier agenda au secondaire avec un crayon feutre, c'est Vilain Pingouin.
Ah ouais?
La toune Salut, salaud. C'était le grand frère d'un de mes meilleurs amis qui l'écoutait en boucle. Puis il nous disait que ça passait à Radio Communautaire le soir. Fait que moi puis mon chum Jean-Michel, on écoutait la Radio Communautaire à 22h. Il y avait une émission de rock alternatif un peu. Puis il jouait Salut Salaud de Vilain Pingouin. Puis ça a été mon premier trip de musique à vie. Tu sais, mon premier vrai trip de musique, ça a été Vilain Pingouin, ça a été Jean Leloup. Puis après ça, là, il y a eu Pink Floyd, puis là, ça a déboulé, puis ça a déboulé. Mais j'ai trippé fort sur Vilain Pingouin que j'ai vu au Centre Georges Vézina à Chicoutimi, un aréna bien plein pour le lancement du deuxième album, je pense. Puis je sais pas, de réentendre Salut Salaud que j'ai entendu peut-être 500 000 fois dans ma vie, mais de voir Rudy Kaya qui était là, qui était fier, puis de voir le band, j'ai quasiment broyé. Hey. Je veux dire, j'ai vécu des émotions avec toi puis avec Big Muff que je ne pensais pas vivre. Je pensais te faire plaisir, j'espérais te faire plaisir en étant là, mais je m'attendais pas à ce que de la musique que j'ai entendue à en brûler. Là, tu sais, c'est toutes des tunes que je suis plus capable d'entendre. Mais dans ce contexte-là, avec ces versions-là, c'est venu me chercher, puis je regardais le monde réagir autour, puis je me disais, ah, il n'y a pas juste moi qui prends son pied ici, là.
Oh, non, non,
le monde a du fun, là.
C'était tellement intime, c'était tellement particulier, puis, tu sais, Rudy Kaya est monté, tu l'as dit, pour Salut Salaud, dans un contexte très précis.
Oui.
La chanson, vous le savez, ça parle de suicide. On l'a utilisé dans ce contexte-là parce que la gang de Big Muff a perdu un membre il y a plusieurs années maintenant.
Le drummer Stéphane Godreau,
ça fait un peu plus que 5 ans, hein?
Qui était un type hyper sympathique, le genre de gars avec qui tu passes une demi-heure, puis tu décides que ça va être ton prochain meilleur ami. Ouais. Là. C'était vraiment, vraiment un bon Jack. Puis c'est dans ce contexte-là qu'ils ont fait Salut Salaud. Et de ce que j'ai compris, pendant qu'il était sur scène, Rudy Kaya, je le voyais parler sa scène, puis je me disais, là, il est-tu à l'aise? Parce que, veut pas, il est affaibli, là. Là, je le voyais parler avec Pépé, je le voyais parler avec Brun, puis je me disais, il est-tu à l'aise? Il est-tu stressé? Y a-tu quelque chose qui va pas? Ce qu'il était en train de dire au gars, c'est, hey, je veux qu'on chante Salut Godreau au lieu de Salut Salaud. C'est l'idée de Rudy Kaya, tu sais.
C'est hot.
Puis c'est ça qu'il a dit au gars. Il dit, hey, on va finir la toune en chantant Salut Godreau au lieu de Salut Salaud.
Hey, tu vois, j'avais même pas cette information-là.
C'est Tommy qui m'a conté ça tantôt.
Parce que je me suis posé la même question que toi sur son aisance à un moment donné.
Ouais.
Mais je savais pas. Puis tu vois, c'est un être. Moi, je l'avais jamais rencontré, Rudy Kaya. Puis Vilain Pingouin, ça a fait partie un peu aussi de ma culture musicale à travers les années, probablement bien moins que d'autres. Mais les grands classiques, on les connaît tous. Puis je trouvais ça d'entendre Rudy Kaya parler de sa façon d'écrire,
ouais.
Tu sais, sa façon de... Tu sais, il nous comptait dans l'âge qu'il s'est déjà fait demander, tu sais, Salut Salaud, ça parle de quoi? Puis il était comme, voyons, calice, me semble, c'est simple. Me semble, c'est évident de quoi ça parle, tu sais. Puis que lui avait cette force-là de ne pas mancher ses mots.
Ouais.
Puis qu'il n'avait pas le talent des métaphores, tu sais, que lui, c'était vraiment... Voici ce que je ressens, qu'il fallait une émotion forte pour être capable de transmettre sa musique.
Puis... C'était un peu ça, Vilain Pingouin puis Jean Leloup, pour un petit cul qui prenait le secondaire. T'avais l'impression que c'était la première fois que t'avais de la musique, puis surtout des paroles qui nous parlaient, t'sais, qui nous parlaient cru, qui nous parlaient franc. Alors qu'avant, c'était quoi? Puis c'est pas pour les dénaturer, mais... T'avais Michel Rivard qui chantait Le trou dans les nuages. T'avais Richard Séguin qui chantait Journée d'Amérique. Tu sais, c'était pas ça, là. Michel Rivard qui chantait Sa blonde et les poissons. Paul Piché, Le secret des incendies. Je veux dire, il y avait rien pour un flow. Le beau grand bateau de Jerry Boulet, Margeau, tu sais.
C'est bien bon, mais ça vous rejoignait pas.
C'était pas nous autres, ouais. C'était pas nos artistes. Puis quand Vilain Pingouin est arrivé, quand Jean Leloup et La Salle à faire sont arrivés, quand les Parfaits Salauds sont arrivés, on a comme une vague de rock québécois qui nous disait quelque chose à nous autres, t'sais, un peu plus. Bref, ça a été une très belle soirée. Bravo à toi, Audrey. Encore une fois, ta voix a pris toute la place. Je sais pas si tu as pris le temps de regarder la vidéo que ma blonde t'a envoyée.
Vraiment rapidement, sans son, parce qu'elle m'a dit qu'on voyait mon père dedans.
C'est pour ça que je veux que tu le regardes, parce que je dois t'avouer que je t'ai triché pendant ta toune. Je t'ai regardé la moitié du temps, mais quand j'ai vu ton père à deux bancs de moi, là, j'ai arrêté de te regarder, j'ai regardé ton père. Puis un père fier de son enfant, on a toutes la même crise de face. On a toutes la même face. On a toutes les larmes aux yeux. On est toutes comme avancées, attentifs, captifs, je sais pas quoi. Il y a un sentiment indéfinissable. Puis je me suis vu à chaque fois que j'ai été fier de mes enfants quand j'ai regardé ton père, tu sais. Fait que là, j'ai tapé ma blonde, j'ai dit « Raph, essaye d'y filmer son père. Faut qu'elle voie ce face-là. »
Hey, je vais prendre le temps de... Je déteste me réécouter, fait que c'est la raison pour laquelle je l'ai fait sans son, mais je trouve ça hot parce que mon père a toujours eu un peu ce petit rêve-là de la scène aussi. Mon père a une voix exceptionnelle.
Ah oui?
La musique a toujours fait vraiment partie de chez nous, de nos soirées. Tu sais, samedi, on s'est retrouvés, dimanche matin, excuse-moi, pour le brunch de Pâques, puis à part manger, ce qu'on a fait, c'est se rappeler des tunes qu'on écoutait il y a plusieurs années ensemble. Mm-hmm. Ça a toujours vraiment fait partie. Fait que j'ai l'impression qu'on partage beaucoup, moi et mon père, quand on parle de musique ou de possible performance. Fait que non, je vais aller regarder
ça. Il était vraiment fier de sa fille.
Ben, écoute, ça a vraiment été une belle soirée. Pour le show en soi, pour les gars, mais pour les gens qui étaient là, j'ai comme eu l'impression que c'était une grosse communion, une grosse affaire de gang. Puis je sais que c'est le cas pour les gars aussi, mais personnellement, j'ai surfé sur un nuage toute la fin de semaine pour une toune. J'imagine même pas ce qu'ils ont pu vivre en dedans d'avoir réussi à créer ce projet-là. Puis... Je te dirais, dans les coulisses aussi, tu sais, il y a le spectacle, mais le fait d'être avec des artistes, c'est nommé Pépé et sa guitare, bon, Mélissa Bédard, il y avait Vicky de Venus 3, Rudy Kaya, et plein d'artistes qui ont des carrières à différentes époques, des visions de la musique, puis de les entendre parler ensemble. Je me sentais tellement tout petite, Don, là. Je me sentais tellement imposteur, tellement...
Non, la musique, ça rassemble.
C'est universel.
Il n'y a pas beaucoup de choses qui nous rassemblent en tant que peuple, en tant que société. Puis je pense qu'on en a besoin plus que jamais, là, parce que le président des États-Unis est viré sur le top et il fait peur à tout le monde. Mais tu sais, la musique, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de politique, il y a juste du monde qui trippe et qui sont en communion
la
ensemble.
La passion, l'amour.
Puis il y avait plein d'artistes sur scène. Il y en a qui étaient des artistes professionnels, il y en a qui étaient des artistes amateurs, il y en a qui venaient de Star Academy, il y en a des self-made comme Vilain Pingouin. Je veux saluer Carl, qui est un auditeur de très longue date. Il dit « J'ai eu la chance de chanter avec les Vilains Pingouins au Dagobert dans le temps des concerts privés Radio X. C'est un des premiers qu'on avait fait, puis je m'en souviens très bien. On l'avait même diffusé sur les ondes à l'époque, en direct. On avait une console qui était à l'étage du rez-de-chaussée du Dagobert, puis on avait une autre console en haut avec laquelle on mixait pour la diffusion de ce spectacle-là. Donc, Carl s'en souvient, il était là. Ça fait des années et des années, mon Dieu Seigneur. Je pensais vraiment pas vivre un trip nostalgique puis rembarquer dans cette musique-là comme j'ai rembarqué vendredi soir. Puis en même temps, ben, ça a été l'opportunité de saluer le grand talent de mon chum brun qui a réalisé le documentaire de Bob Bissonnette, qui a une facture tellement moderne comparée à tout ce qui a été fait avant ce documentaire-là. Tu sais, tu regardes à cette heure, les gros documentaires sur Netflix sont tous bâtis de même. Mais Brun, c'est le premier au Québec qui en a fait un qui était moderne dans la façon de faire les choses, d'interviewer les gens, puis ainsi de suite. Il a reçu son DVD d'or sur scène. C'était un moment surprise. Brun, qui est un peu le leader, en fait, c'est le chanteur de Big Muff, puis ça, c'était une autre affaire, tu sais. Brun, la première fois que je l'ai rencontré, je pense qu'il n'était même pas majeur encore. Il suivait les parties du vendredi soir à Radio X. On était une gang de flow. C'était les vendredis 6 à 6 extrêmes avec Stéphane Stage-Lacroix et Serge Trudel. Puis à chaque vendredi, c'était un show qui sortait d'un bar. Puis plus souvent qu'autrement, à Québec Centre, ça pognait pas, là. Tu sais, tu faisais ça, mettons, sur Grande Allée, il y avait 8 personnes qui se déplaçaient, puis c'était un peu gênant. Mais dès qu'on sortait, genre en Beauce, c'était le dawa. Puis la première fois que j'ai parlé à Brun, qui était probablement pas majeur, c'est un soir de dawa, c'est un soir de party, c'est un soir de brosse à Trinque-Jonction, en Beauce, le défunt Hôtel National de Trinque-Jonction. Puis nous autres, ça avait comme collé tout de suite. On avait parlé de tunes, puis je me souviens qu'il avait chanté une couple de tunes, puis il disait ça, il disait hey, « moi, je vais avoir un band, puis je veux chanter, puis tout, disait, ah, c'est donc bien le fun. » Puis je voyais le chemin qu'il avait fait, tu sais, juste en tant que voix, en tant que chanteur, puis en tant que musicien, puis je me disais « tabarnan, un, on est rendu vieux, c'est terrible! » Mais il l'a fait.
Ah, il était exceptionnel.
Il l'a fait. Puis l'effort qu'il faisait. En fait, je ne sais pas si c'est un effort ou un naturel pour lui, mais le fait qu'il réussissait très rapidement à mettre tout le monde à l'aise et sur scène et dans la salle, ça prend du talent pour ça.
Vraiment.
Te prendre toi, qui a une voix extraordinaire mais qui ne veut jamais sortir, puis réussir à te faire monter sur scène deux fois plutôt qu'une pour faire la toune, ça prend une force.
Ah, il est réconfortant. Il est vraiment rassurant. Il y a quelque chose, t'as raison.
Puis quand t'es capable de booker Rudy Kaya puis Mélissa
Bédard
sur le même show, faut que tu sois capable de convaincre du monde. Bref, la prochaine fois que Big Muff fait ça, manquez pas ça.
Ah non, faut pas. Puis je vous souhaite qu'ils refassent parce que quand ils ont fait les performances en septembre à l'Anglicane, c'était une affaire d'une shot. Grand Théâtre, c'était une affaire d'une shot. J'espère que la piqûre va rester assez longtemps pour qu'ils décident de booker une autre salle. C'est vraiment... non, tu l'as dit, ça n'a pas manqué. Moi, écoute, j'ai capoté puis c'était de l'intérieur. J'aurais aimé ça le vivre de l'extérieur à 100%. mais tout le monde à qui j'ai parlé a vécu un trip. Fait que je vous souhaite
écoute,
aussi de...
moi, j'ai été sur un petit nuage toute la fin de semaine grâce à vous autres. Puis, regarde, tant qu'à en rajouter, en voulez-vous des histoires de vie? Celle-là, elle y appartient. Puis, tu sais, j'ai un collègue de travail que j'adore, c'est Tommy. Okay?
Ouais.
Tommy a eu une année rough, comme ça arrive à bien du monde. Puis, Tommy, il est passé à travers.
Ouais.
Et Tommy a fait ce qu'il fallait qu'il fasse pour passer à travers. Puis, de le voir triper sur cette scène-là vendredi, Tommy, c'est pas le plus visuel. C'est le gars que si vous portez pas attention, vous le verrez peut-être même pas sur la scène. Mais moi, je l'ai regardé à moitié du temps parce que Tommy, je l'aime, j'aime son style. Puis là, il était en mode Neil Young. Là. Il était en mode Neil Young, il était assis comme Neil Young, il tapait de son pied comme Neil Young, il tripait sa vie comme Neil Young. C'était tellement beau à voir.
Ah,
vive la musique.
T'as tellement raison.
Tu sais, Gab, tu tripes pas sans la même musique que moi, mais tu sais à quel point la musique, ça rassemble. Puis la musique, c'est, je sais pas, c'est une drogue légale, puis ça fait du bien. Puis tu sais, tu vas voir un show de country, t'es sur un petit nuage après pendant quoi? Une semaine,
ben,
des fois deux.
C'est comme, ben oui, parce que, mettons, pour parler de ça, les premières fois que j'allais voir des shows country ici au Québec. Puis même ailleurs, c'est parce qu'avant, je prenais mon passeport pour aller voir mes shows. Maintenant, je n'ai plus besoin. Ça, c'est un des constats le fun des dernières années dans la musique country. Mais c'est qu'un show country, moi, ce qui me frappe le plus habituellement, c'est que... Puis c'est probablement de même dans tous les styles. C'est juste que moi, c'était celle-là qui m'a davantage touché, tu sais. C'est qu'à un moment donné, tu tripes. Puis à un moment donné, il y a une toune... C'est un peu comme le même phénomène que les chars, quand il y a de les deux chars se croisent à une lumière rouge puis ils écoutent la même affaire. Là. Fait que là, il y a un sourire qui s'échange, mais dans un show country ou n'importe quel show, tu tripes avec ton voisin que tu connais pas pendant tout.
Ouais.
Mais là, tu lui fais un high five, puis tu sais pas c'est qui, puis yes, ça devient ton meilleur chum, puis tu dis hey, tu veux-tu une bière, je vais en ramener une. Tu sais pas c'est qui, tu sais pas c'est qui 5 minutes avant, ça rassemble de cette manière-là.
Ça fait toujours du bien. Ça fait toujours du bien. Je sais que le prix des billets de spectacle sont de plus en plus chers. Ben, peut-être que l'alternative, c'est de trouver les meilleures bandes qui font des tunes qu'on aime. Puis je sais que des bandes d'hommage, il y en a plein. Si vous tripez sur un band en particulier, mais je pense que si vous tripez sur une époque en particulier, Big Muff, à chaque fois que vous voyez ça sur le bill, je pense que ça vaut vraiment, vraiment un détour. Salutations à Pat Paquette qui nous écoute présentement.
Oh, ouais, hein?
Ouais, le drummer, ancien drummer d'Ions qui drumme maintenant avec la gang de Big Muff.
Ça en est tout qu'un aussi.
Ah, c'est tout
vrai.
Du bon monde. C'est tout
on
du bon
a
monde.
Le réflexe de parler de Brun Tom parce qu'on le connaît, puis, mais chacun des musiciens de cette formation-là, puis moi, Pat, ça a été un coup de cœur. Je trouve que c'est une des personnes qui est rassurante. Tu sais, il y a un moment dans Toon, le vendredi soir, où il y a un bridge musical, puis la personne vers qui j'ai le réflexe de me tourner, c'est Pat, tu sais. C'est vraiment du bon monde, des bons gars. Tom nous écoute aussi en passant, fait qu'on vous envoie bien de l'amour.
Je vais boucler la boucle avec ça parce que j'ai vu ce message-là passer avant le spectacle, puis on dirait que c'est ça qui m'a mis dans le mood de bonne humeur, de dire à soir, on va célébrer la musique, puis on devrait le faire plus souvent. En tout cas, Gravel qui vieillit devrait le faire plus souvent. Message de notre collègue Tommy qui a publié avant le spectacle de vendredi soir. Lui était sur scène. Il dit « La musique a sauvé ma vie. Sans entrer dans les détails, les derniers mois ont été vraiment tough. Heureusement, j'ai été bien entouré. Une preuve que l'amour peut changer la pierre en plume, faire pousser les fleurs sur un champ de mid. Une joke, un « Hey, buddy, ça va? » Un « Je t'aime, papa. » Un « Mon amour, je suis là pour toi. » ont parfois l'effet d'un battement d'ailes de papillon. Je suis ici aujourd'hui, un peu balafré, comme le titre d'un certain film avec Pacino, le cœur léger, fébrile, avec l'envie immense de prendre ma guitare et de monter sur scène avec des gens extraordinaires que j'apprécie au plus haut point. Ce soir, au Grand Théâtre, le temps va s'arrêter. On va savourer chaque respire, chaque note, et on va prendre le temps de vivre, parce que là où il y a de la musique, il y a la vie. La musique a sauvé ma vie. C'est exactement le feeling que j'ai eu vendredi soir. Puis des fois, on fait de la radio puis on essaye de trouver des beaux mots. C'est pour ça qu'on va bomber les messages des autres sur Facebook.
C'est pour ça qu'on les dépense.
14h28 pour nous rejoindre. Je vous le rappelle, c'est le 418-971-1021. Beaucoup de choses à jaser, beaucoup d'actualités, beaucoup de sport. On se lance, on revient. Gravel. 14h33, avant de se lancer dans l'essentiel de l'actualité, peut-être rappeler qu'il y a un véhicule lourd en panne dans quel secteur, Audrey?
C'est fin de l'accès du boulevard Perle-Lièvre vers Robert Bourassa Sud, où c'est partiellement entravé, puis effectivement, c'est loin d'être terminé.
On va reparler de musique aujourd'hui. On s'est laissé, nous autres, jeudi pour une longue fin de semaine. On a manqué les nouveautés du vendredi, fait qu'on va les faire aujourd'hui. Ça va nous permettre de revenir, entre autres, sur le nouvel album et les nouvelles distinctions internationales des deux petits gars de Chicoutimi déguisés dans des boîtes en carton, en jean de poitrine. Un album que j'ai beaucoup écouté en fin de semaine.
Ben, j'ai quand même hâte qu'on en parle parce que je m'en viens.
Hein?
Ben,
toi, ça!
T'en viens!
J'ai écouté quelques fois, je te dirais, le volume 2 en fin de semaine.
Ah ouais, ben ça m'étonne, t'as
ouais, 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 non, je m'en viens.
L'autre chose qu'on va jaser ensemble, c'est il n'y a rien de pire qu'un show qui te pète d'en face. Puis moi, Lady Gaga, c'est pas la mienne, là, mais je comprends tellement la déception de gens qui attendaient ce moment-là. Hey. Puis des fois, qui se préparent pendant des mois et des mois avec le costume, puis toute la patente, puis le voyage, puis tu sais, du monde qui part de Chibougamau, puis du Saguenay, puis... En plus, t'entends parler du buzz des deux shows d'avant à Montréal, puis là, il y a des amis à toi qui sont allés. Tu vois des photos passer, fait que là, t'es craqué.
Le monde font la route de partout.
Puis là, prout, comme en 2017, parce que c'est pas le premier coït interrompu entre Lady Gaga puis Montréal, c'est le deuxième. Infection.
Pour la même affaire, oui.
Ouais, là, elle est pas faite pour vivre au Canada pendant l'hiver, là.
C'est pas une pas de vente de billets, là. C'est pas que le show vendait pas, là. C'est pas le genre d'annulation de même.
Non, je pense que ça, c'en est une qui doit protéger ses cordes vocales contre les vents canadiens, peut-être, parce que le show a été annulé, puis il sera pas remis, là, je veux dire, c'est tellement enrageant. Je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vécu. Moi, ça m'est arrivé deux fois, on s'en reparlera tantôt, là. 418-971-1021, les deux fois que c'est arrivé, j'ai encore sur le cœur.
Ouais?
Ouais.
T'avais-tu pu te faire rembourser, au moins?
Non.
Les deux fois?
Une fois.
OK.
Il y a une fois que j'ai réussi, l'autre fois, parce que...
On parle d'un montant de combien?
Dans mon temps, c'était plus compliqué.
Ah ouais?
Puis, ben oui.
Parce que ça a de l'air compliqué, là, avec Lady Gaga, là.
Ben, imagine-toi pas d'Internet en partant.
Ouais.
Puis là, il faut que t'appelles, là, c'est Réservatech ou c'est Ticketron. T'avais des espèces de places
de... Ticketron qui appelait ça?
Oui, wow. Au Saguenay, on avait Ticketron, on avait Réservatech. Il y a eu Billettech aussi ici à Québec, je pense, mais c'était compliqué, là. Puis des fois, ben quand c'était dans une plus petite salle, par exemple, ben fallait que tu ailles te faire rembourser à la salle avec ton billet. Ouais. Moi, je restais à Saint-Fulgence, descendre à Montréal.
C'était pas en route.
Non. Donc,
quand tu es allé acheter ton billet, tu es descendu, mais pas pour te faire rembourser.
Exact.
Ou quelqu'un te l'a amené parce qu'il en a acheté un pour toi.
Mais ça m'est arrivé une couple de fois, puis tu sais, en même temps, tu es en joie le vert, mais... C'est pas de la faute à personne, vraiment. Ouais. Fait que t'es juste une victime des circonstances.
Parce que là, avec Lady Gaga, c'est de l'inconnu pour plein de monde. Parce que c'était non seulement vendu au bouchon, mais il y avait de la revente qui s'était fait à prix supérieur que le prix du billet à l'origine. Fait que Ticketmaster, eux, vont rembourser les, je sais pas, 20 000 billets qui étaient affichés à, encore là, je sais pas, 200$.
Ouais.
Mais la vente secondaire, on sait pas ce qui arrive.
Au fil des années, là, le nombre de personnes à qui c'est arrivé, parce que Martin vient de nous texter exactement cette histoire-là, mais le nombre de fois que des gens allaient à Vegas pour voir Céline, puis qu'ils sont tombés sur des semaines où Céline, elle se faisait remplacer.
Hein?
Ben oui! Tu sais, Céline est en résidence, mais des fois, elle prenait off, des fois, elle avait des congés pour ses cordes vocales, des fois, puis habituellement, de mémoire, ceux qui remplaçaient Céline, c'était pas des deux de pique, là. De mémoire, je pense qu'Elton John l'avait déjà fait.
Ah, bon.
C'était des gros noms, mais quand tu vas voir Céline, normalement, tu vas voir Céline. Des voyages à Vegas où le but, c'est d'aller voir Céline Dion, puis tu reviens, puis tu n'as pas vu Céline Dion. C'est arrivé à beaucoup de Québécois.
Ça va-tu arriver encore l'automne prochain?
Ben là, elle vient de rajouter des shows. Elle est pas peureuse, on va se le dire, avec ce qu'on a vu sur son état de santé dans les dernières années. J'espère que non. Parce que quand ça arrive, c'est choquant. Puis moi, je pensais à des parents. T'sais. Je pense tout le temps à des parents. Des parents qui font des pieds et des mains pour que ta grande fille qui a eu une belle année scolaire, elle tripe sur Lady Gaga comme une folle. Puis là, tu dis, on y fait plaisir. On part d'Alma. On descend en char. On s'en va voir Lady Gaga. Puis t'as les deux tiers du chemin de fête. Puis là, la nouvelle, elle tombe. Il n'y a pas de show.
Puis l'affaire, c'est que t'aimes ou t'aimes pas sa musique, j'ai l'impression que c'est une artiste à voir dans une vie. C'est pas juste une voix, Lady Gaga. Là, je veux dire, c'est cinématographique, son affaire, son show. Là. C'est costume après costume. C'est complètement débile. Là.
Écoute, quand c'est ton artiste, puis que ton artiste te pète dans la face à quelques heures d'avis, il n'y a rien de plus, plus choquant.
J'ai eu de quoi être vraiment pas comparable, mais Chris Stapleton avait reporté il y a quelques années, justement à cause de la COVID en plus.
Okay.
Il y avait quelqu'un, un membre de l'équipe.
T'avais-tu pu retourner?
Oui.
Okay.
Et nous, on était par contre déjà à Montréal pour voir Chris Stapleton. Ben, en tout cas, tout était déjà booké, là, fait qu'on y allait pareil en se disant, ben, même s'il n'y a pas de show, il faut qu'on s'organise.
Crime,
on a réussi à aller voir Charlotte Cardin ou MTLUS finalement.
Ah, c'est pas pire.
Puis on s'en est vraiment bien sortis, fait qu'on était contents, mais tu sais, une alternative comme ça.
Il y a de pires façons de noyer sa peine qu'à un show intime de Charlotte Cardin.
C'était bien.
14h38, on se lance dans l'actualité de ce mardi qui est un lundi. On est le 7 avril, Gab.
Alors, c'est évidemment, là, on surveille ce qui va se passer au Moyen-Orient. Menace du président Trump, littéralement, d'anéantir la civilisation iranienne.
Incroyable.
Et les réactions de tout ça par la suite viennent, du premier ministre Mark Carney, qui invite le président américain à plus de retenue.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Ben, exact.
C'est des mots d'une violence inouïe, probablement les mots les plus durs qui ont jamais été prononcés par un président américain. Moi, ça me trouble terriblement. Mm-hmm. Écoute, d'annoncer, comme si tu bluffais au poker, que tu vas éliminer une nation au grand complet. Puis ça, c'était après les menaces à grands coups de fucking dans la fin de semaine. Moi, j'ai vu passer ça, j'étais convaincu que c'était une joke.
Mais moi, ça me perturbe parce qu'elle est où la limite? T'sais, je comprends là, que c'est le président américain, mais il n'y a pas quelqu'un au-dessus ou quelque part qui peut comme, je sais pas, le sortir de force là?
J'aimerais beaucoup que les adultes reprennent le contrôle des États-Unis puis de la démocratie en Amérique du Nord, mais je me dis qu'à un moment donné, il va arriver de quoi? Malheureusement... C'est peut-être quand des soldats américains vont commencer à mourir que la pression va commencer à monter davantage.
Mais moi, mon enjeu, il est là. C'est des vies gratuites que tu pitches par la fenêtre pour... Ouais.
Pourquoi, dans le fond?
Alors, l'ultimatum expire à 20h ce soir. C'est à peu près à ce moment-là qu'on va avoir une idée plus juste de ce qui est vraiment derrière ces menaces-là. Mark Carney, son impression, c'est que, de un, il y a des négociations en cours et il existe souvent un décalage entre les déclarations publiques et les actions menées en privé. Donc, lui, il y a un bluff là, de ce côté-là, voulant dire que en gros, avec le Canada, c'était sensiblement aussi des « on va faire du Canada le 51e état », puis finalement, c'était moins pire que ça. Donc, lui, il voit un bluff. Par contre, rappel, les partis à respecter le droit international durant ce conflit, etc., etc. Washington et J.D. Vance a démenti l'idée d'avoir envisagé l'utilisation de l'arme nucléaire, alors que nous, on le comprend tous ainsi quand on lit entre les lignes. Lui, éliminer c'est pas du tout ça qu'on a dit.
C'est la seule arme qu'on a présentement pour éliminer une nation entière.
Il laisse entendre qu'il y a d'autres types d'interventions qui peuvent être faites que l'arme nucléaire pour J.D. Vance. Alors, semble vouloir, sans nécessairement être rassurant, parce qu'il traite tout le monde de bouffon, ceux qui pensent que c'est ça qu'il a dit, mais il y a un peu de ça. Puis la réaction de l'Iran n'a pas été de dire « OK, excusez, pardon », a été de dire « Non, OK, ben d'abord, plus de négociations, puis on verra bien ce qui va arriver, puis on ne réagira pas d'ici 20 heures. L'ultimatum va être dépassé. La force brute ne l'emportera pas. » Alors ça, c'est les plus récents développements de ce côté-là.
Imaginez-vous que Winston Churchill... tweet pendant la Deuxième Guerre mondiale, la veille du débarquement de Normandie, qu'on va éliminer la nation allemande au grand complet sans même faire de distinction entre les leaders de guerre que tu veux dégommer, qui essayent de t'envahir, versus la population. Je veux dire, c'est incroyable. C'est incroyable. Aujourd'hui, moi, j'ai aucune importance. Je fais de la radio à Québec. Je veux dire, what the fuck? T'sais, mais... J'annonce aujourd'hui, je menace, mettons, l'Ontario, que la nation ontarienne va mourir. J'appelle à la mort de la nation ontarienne dans un délai de 24 heures. Demain, je rentre pas, là. Mon boss m'a suspendu, mon boss m'a sacré dehors, puis il a raison de le faire. Là, c'est le gars le plus important en poids et en influence en Amérique du Nord qui dit ces choses-là. Ça ne peut pas être supporté par qui que ce soit qui a autre chose qu'un omelette bacon entre les deux oreilles.
Tu sais, il y a la guerre entre l'Ukraine puis la Russie qui se poursuit de l'autre tableau. Tu sais, Poutine, on a souvent eu quelque chose qui ressemblait à peu près ça sans être aussi direct. Là. Non,
quand tu dis que Poutine a été plus subtil, c'est incroyable, mais vrai.
C'est
tristement
ça.
Vrai.
Alors, c'est là où on en est. Puis d'un autre côté, tu sais, je veux dire, on, à chaque jour et à chaque semaine qui se succède, il y a toujours une déclaration encore plus incendiaire que la précédente de Donald Trump qui nous a mené jusqu'ici aujourd'hui. Alex Hilton, Denis, j'ai vu que tu l'as ouvert. En effet, c'est une nouvelle de dernière heure comme quoi l'ancien boxeur est décédé à l'âge de 61 ans aujourd'hui. Son frère Jimmy Hilton, donc, qui en a fait l'annonce sur sa page Facebook. Alors, il serait décédé dans son sommeil. Je vous lis la déclaration de Jimmy. Les mots ne peuvent décrire le choc et la tristesse que nous ressentons tous à la suite de la perte de notre frère et fils adoré. Un homme d'une grande bonté, d'une sincérité rare, il s'est éteint paisiblement dans son sommeil. Il était le meilleur fils, frère et ami qui ait jamais existé. Il nous manquera terriblement. Alex Hilton qui est décédé.
Est-ce que c'est avec Alex Hilton que Marie-Claude Savard s'entraînait et qu'elle a fait le documentaire « Être un Hilton » ?
Ben, écoute, je suis en train de regarder ça, c'est sur Nouveau en passant.
Oui, pour les gens qui distinguent bien les frères Hilton là, qui ont eu des vir-off, là, vous le savez, là, est-ce que c'est avec Alex Hilton que Marie-Claude Savard avait recommencé à s'entraîner et qu'elle avait eu accès à raconter la vie des frères Hilton, oui, hein?
Oui, tu vois, Marc-Claude Savard retrouve le boxeur Alex Hilton qui accepte de raconter l'histoire incroyable des frères Hilton. Ça s'appelle « Être un Hilton ».
Tu sais, lui avait l'air d'avoir vécu un peu sa rédemption dans les dernières années. Alex Hilton, qui avait fait sa marque en remportant à l'âge de 18 ans le titre canadien vacant des poids moyens lors d'un combat face à Ralph Hollett, ça c'est en décembre 83, avait perdu le titre en janvier 85. Il n'avait pas respecté le délai pour organiser une défense de son titre. Puis les Hilton, bon, ont eu plusieurs démêlés avec la justice au cours de leur vie, particulièrement dans les années 80. Alex Hilton a écopé d'une peine de 5 ans de prison pour avoir commandé une agression sexuelle envers un autre détenu alors qu'il purgeait une peine pour une autre offense. Souvenez-vous que les Hilton, à un moment donné, étaient tellement mêlés comme un jeu de cartes qu'ils ont fait un vol masqué, un vol cagoulé à Montréal, avec le veste de boxeur marqué Hilton dans le dos.
Ça, génie du crime, on repassera.
C'est ça qui est ça. L'enquête n'a pas été longue.
Non.
Si jamais ça vous intéresse, c'est 3 épisodes
d'une
quarantaine de minutes. Ouais. Ouais. Ça se retrouve sur à plusieurs endroits sur les internets, là, mais nouveau, je suis dessus. Là, puis être un Hilton, c'est en 2024 que c'est sorti, puis effectivement, c'est bien fait.
Beaucoup de gens qui ont abusé des Hilton, il y en a un qui s'était toujours défendu d'être leur père adopté. Gilles Proulx paraît très, très mal dans cette série-là. Il a juste l'air d'un gars parmi d'autres qui a abusé du fait que les Hilton... C'était des gros cogneurs, mais c'était pas c'était pas les outils les plus aiguisés dans la boîte à outils.
Ouais.
Tu sais, on va le dire comme ça. Je pense qu'on n'apprend rien à personne. Là. Mais Alex Hilton est décédé. Ouais, c'était dans un Dunkin' Donut que les Hilton... oui, puis ça rajoute encore un peu plus de folklore à l'affaire parce que tu avais des policiers en break, en uniforme, qui étaient en train de manger au Dunkin' Donut. Eux autres, ils rentrent avec le cagoule puis le veste marqué Hilton, gros de même dans le dos. Là. C'est écrit Hilton dans le dos de la veste. comme Caulfield sur son chandail, là, tu sais.
Ça a tellement l'air épique.
Hey, on va poursuivre les autres nouvelles au retour de la pause. Il est 3h moins quart, c'est Gravel dans le retour. Merci d'être avec nous autres.
Pour joindre l'équipe de Gravel dans le retour, par texto
418-971-1021 pour nous rejoindre par texto, le 780-1021 dans le 418 par téléphone. Vous rappelez qu'il y a des belles journées là, cette semaine, particulièrement jeudi. On prévoit du soleil avec un maximum de 13 degrés, rien de moins. On vous rappelle la nouvelle de dernière heure, Alex Hilton qui est décédé à l'âge de 61 ans. C'est la vedette du documentaire « Être un Hilton » qui a été réalisé par Marie-Claude Savard qui met la lumière sur beaucoup de pages d'histoires sombres des frères Hilton. C'est à voir. C'est nouveau qu'il l'a, le documentaire, Audrey?
Oui, il est là sur Prime aussi, de ce que je voyais tantôt, okay. Si vous voulez l'acheter, le louer. Là.
Ça vaut la peine. Donc, ça a été confirmé dans la dernière heure, décédé dans son sommeil à l'âge de 61 ans. Dans les autres nouvelles qui retiennent l'attention dans l'actualité, Gab, on n'avait pas eu le temps de faire le tour complet.
Oui, et c'est pas nécessairement une histoire qui va parler à tout le monde, mais ça demeure intéressant. Sami Bebaoui, donc, devra retourner derrière les barreaux pour 10 ans. C'est un ex-cadre de SNC-Lavalin qui a été déclaré coupable en 2020 d'avoir participé à un stratagème de pot de vin avec l'État libyen. Là. Tout ça se passe au début des années 2010. Versement de pot de vin en Libye en échange de contrats pour SNC-Lavalin. Il graissait la patte au fils de l'ex-dictateur Muammar Kadhafi, qui a été assassiné en 2011. En retour, il avait empoché plus de 28 millions de dollars grâce à une société écran située dans un paradis fiscal. Et lui, donc, en plus d'une amende, avait écopé de 8 ans et demi de prison en 2020 pour fraude, recel, recyclage de produits de la criminalité, etc. Mais là, il a été libéré, donc évidemment, là, au sixième de sa peine en mai 2024. Et depuis ce temps-là, bien, il y a encore son amende à payer. Et c'est depuis ce temps-là que l'État demande à ce qu'il rembourse sa dette, son dû. Puis lui, de son côté, dit qu'il n'a pas les fonds pour rembourser les millions nécessaires, là, les 25 millions qu'on lui demande de rembourser.
Ben
fait qu'il rembourse à coût de 5 000 par mois, puis jusqu'ici, il a remboursé pour 100 000 piastres au total.
Il en reste un peu.
Fait qu'il en reste trop, donc le juge mentionne, ben tant pis, si t'es pas capable de rembourser ce qu'on te doit de ta peine qu'on t'a imposée en 2020, tu vas retourner en prison. Lui, en mars dernier, avait imploré la clémence du juge Gregory Moore, disant que son expérience en prison était très difficile et que c'était l'un des pires cauchemars de sa vie. Il n'a pas obtenu il a regardé dans la compassion, Denis, puis il l'a pas trouvé, lui, non plus.
Non, et puis en même temps, ben, je veux dire... J'ai pas de compassion, mais mon empathie me fait dire être lui, qu'est-ce que t'aimes mieux? Rester en prison ou aller déterrer l'argent que t'as enterré à quelque part pour en profiter jusqu'à la fin de tes jours, comme le crosseur que tu es? Ouais, ouais, je suis content qu'il te garde en prison.
Donc
plus
là,
longtemps.
Le juge a même dit: Monsieur Bebaoui ne sera pas incarcéré parce qu'il est trop pauvre pour payer l'amende, il sera incarcéré parce qu'il refuse sans excuse raisonnable de la payer.
Voilà.
Et donc, il retourne derrière les barreaux. Ça aussi, c'est une nouvelle qui est tombée en début d'émission. Dans les hôpitaux, hausse de la violence. Finalement, c'est ça qu'on peut calculer dans le réseau de l'éducation. On peut calculer ça également dans le domaine de la santé.
C'est partout. Hein?
Oui.
C'est malheureux, mais c'est partout.
Exact. Et différents témoignages dans les différents hôpitaux aujourd'hui. Les attaques de patients violents sont en forte hausse au point où des agents de sécurité sont désormais munis de vestes de protection contre les coups de couteau. On explique, le monde ne se gère plus, comme on le lit ailleurs aussi. Donc, notamment à Sherbrooke, il y a un docteur qui le mentionne et dit « Des menaces là, qu'on entendait rarement auparavant, maintenant c'est toutes les semaines, je vais te tuer, je vais te défoncer. » il est médecin depuis 21 ans, il estime devoir se battre chaque mois avec un patient dangereux qu'il faut maîtriser. Et ça, c'est un constat partout dans la province.
Il a manqué se faire arracher un œil par un patient désorganisé qui a arraché son stylo de sa chemise, puis qui a essayé de le poignarder avec.
Il y en a un autre à Rimouski qui m'avait frappé. 23 mars dernier, un infirmier a été attaqué par un individu intoxiqué au crack à l'urgence de l'hôpital de Rimouski. Après avoir arraché l'appareil à pression au mur, l'homme s'est rué vers l'employé de 49 ans. Là, il dit qu'il a eu peur, bien sûr, qu'il s'est arrêté à 20 cm de son visage avec un regard très hostile, qu'il était pris en souricière, il n'y avait pas de place pour se sauver. En sortant, parce qu'il a réussi, il lui a lancé une mop de la salle de triage et à ce moment-là, il a appelé la police et il a fait évacuer la salle d'urgence. Puis c'est toujours l'espèce de réaction, évidemment, on comprend. Mm-hmm. Mais le moment d'attente entre l'appel à la police et l'arrivée de la police, où évidemment, ça règle le problème puis les policiers s'en chargent, heureusement, puis sont formés pour ça avec les outils nécessaires, ça, c'est long. Et ça, il y a beaucoup d'inquiétudes. Puis il avait barricadé la porte pour que la personne qui était en état de crise ne puisse pas sortir et, à la limite, s'attaquer aux autres patients. Il y avait des enfants dans la salle d'attente à ce moment-là aussi. Puis le problème, c'est que les événements, c'est dur à calculer, mais c'est en augmentation. C'est 2555 en 2024 rapporté par les employés du réseau. Alors, c'est un autre constat lourd aujourd'hui.
Des fois, je me demande comment tu renverses la vapeur. Parce que, je veux dire, on est tous conscients depuis une couple d'années que la tension monte. Oui. Là, c'est parce que comment tu ramènes ça à zéro, mettons? Là.
Ben, j'aimerais ça te dire, on a tout notre petit bout à faire là-dedans, là, mais je trouve que c'est un peu de la pensée magique. Puis, sur le fond, est-ce qu'il y a trop de gens en liberté? Je veux pas envoyer tout le monde en prison, évidemment, mais tu sais, il y a des problématiques de santé mentale qui doivent se gérer avec l'obligation de prendre tes médicaments et l'obligation de ne pas prendre de drogue, par exemple. Mmh. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, on le sait, il y a beaucoup de gens seuls, il y a beaucoup de solitude. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin, pour leur propre sécurité et celle des autres, d'être entre quatre murs? Puis de se faire donner le pilule le matin sans retomber à vol au-dessus d'un nid de coucou des années 70 là, où on enfermait n'importe qui, n'importe comment. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de régulariser leur vie puis d'être encadrés davantage et de ne pas être laissés à eux-mêmes? Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui arrive dans un épisode de consommation de drogue à l'urgence, est-ce que c'est l'endroit où il doit patienter avec des familles, avec des enfants, avec des personnes âgées? Est-ce que on fonctionne de la façon la plus sécuritaire? Je lance des questions et humblement, j'ai pas les réponses. T'sais. Mais moi, à chaque fois, les dernières fois que je suis allé à l'urgence, il y avait tout le temps du monde qui n'était pas en contrôle d'eux-mêmes, qui se parlait tout seul, qui se bave dessus.
C'est
qui,
ça, mais imagine que demain matin, tu priorises ces gens-là pour pas les mélanger aux petites familles. Là, le monde vire en tabarnouche qu'on priorise du monde qui sont pas capables de gérer.
Ou encore, parce que c'est ça, même pendant la... Ben, je sais pas si c'est sûrement encore de même à l'hôpital, mais tu sais, on sépare la clientèle COVID et la clientèle pas COVID là, pour la sécurité de tout le monde. Mais ça...
Peut-être que la personne intoxiquée, elle peut attendre dans le parking dehors, là, avec les ambulanciers prêts à intervenir. Là, je donne un exemple parmi d'autres parce que c'est non, mais c'est dangereux pour tout le monde.
Gèle-toi plus que tu l'es déjà.
Mais tu sais, c'est spécial parce qu'on n'a pas l'impression qu'il... Remarque, c'est pas tous les hôpitaux là, et les urgences qui ont un gardien de sécurité. C'est sûr que ça, déjà là, ça semble être assez la base. malheureusement, que là, finalement, il faut qu'en tant que société, on paye pour qu'il y ait un agent de sécurité 24 sur 24 dans les urgences du Québec parce qu'il y a trop de violence, ça, c'est de valeur.
Là, c'est pas juste les gens intoxiqués, là, c'est le monde tout court. Ouais. Si on parle de notre monde, c'est route.
Ouais. La prochaine étape, c'est quoi? C'est des agents de sécurité aux Normandins parce que le monde ne savent pas
ça,
vivre.
Exact, c'est ça, ouais. Parce que là, il y a des détecteurs de métaux aussi qui sont installés, là, notamment à Montréal, l'hôpital Notre-Dame. On a mis en place un détecteur de métal il y a quelques mois. D'ailleurs, c'est avec un succès mitigé. Parce que il donne un exemple d'un itinérant, par exemple, qui se présente là, mais il a son propre couteau. Puis évidemment, on ne le laisse pas rentrer à l'hôpital avec le couteau. Puis là, il pogne les nerfs parce qu'on veut y enlever son couteau. Donc, tu sais, c'est un beau problème là, à régler à ce moment-là, puis, même si ça...
On a installé récemment des détecteurs de métal au Palais de justice de Québec. Ça prend-tu des détecteurs de métal dans le hall d'entrée de chaque hôpital?
Tu
sais... Il y a quelque chose, il y a un constat triste là-dedans, pareil, là, qu'on en soit rendu là.
Tu as la période de vote qui commence aujourd'hui pour le prochain chef de la CAQ et le futur premier ministre. Le gagnant sera connu dimanche 12 avril au terme d'un vote de plus de 20 000 membres de la CAQ. D'ailleurs, au début de la course, il était 15 000. Ils en ont vendu 5 500 des cartes de membres. Bernard Drinville, hier, a obtenu 3 nouveaux appuis de taille quand même. Simon-Jolin Barrette, qui était même pressenti au début de la course pour se lancer lui-même. Sonia Bélanger, qui a le portefeuille de la santé. Et Jonathan Julien, au transport, qui sont venus appuyer Bernard Drinville in extremis, là, avant même la période de fin du début du vote.
On me dit que Jonathan Julien, ça a été la moitié d'une Kit Kat puis était all-in. Pour les autres appuis, ça donne presque l'impression qu'il y a une course. Mais il n'y en a pas. La réalité, c'est qu'il n'y en a pas.
Parce que Christine Fréchette aussi annonce 3 nouveaux appuis aujourd'hui. Donc, Jean-François Simard aux ressources naturelles, puis finalement dans la capitale nationale. La députée Stéphanie Lachance, ainsi que le président du caucus, Yves Montigny, qui a démissionné pour ça, parce qu'il ne voulait pas se placer dans un conflit d'intérêts. Alors, Christine Fréchette mène le bal sur le nombre d'appuis au caucus avec une quarantaine. C'est 18 pour Bernard Drinville. L'issue du scrutin sera dévoilée à l'occasion du congrès du parti à Drummondville. D'ailleurs, il n'y aura pas une émission.
Il va y avoir une émission spéciale.